Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, des cours destinés aux professeurs de collège et de lycée afin d'éclairer leurs élèves à l'aide de grandes figures choisies. Olivier Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, agrégé, docteur en histoire médiévale, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et je vais me contenter de citer trois ouvrages accessibles pour les professeurs qui n'ont pas forcément le temps de lire des ouvrages fleuves, des biographies fleuves. Il y a Charlemagne, Mahomet, Jeanne d'Arc. Ces trois ouvrages sont parus chez Bernard Giovannangeli, éditeur. Olivier, vous êtes venu nous présenter aujourd'hui une figure, si ce n'est la figure de ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne, j'ai nommé Alcuin. Avant d'entrer dans le détail, qui était Alcuin, Olivier Anne?
Alors, Alcuin est un Anglais, pour peu qu'on puisse dire qu'il y a des Anglais à l'époque. En tout cas, il vient de Northumbrie. Il est né vers 735. On n'est pas tellement sûr de la date de sa naissance. Et il est devenu, dans la ville de York, dans l'un des grands monastères de York, il est devenu l'écolâtre. L'écolâtre, c'est-à-dire celui qui dirige les écoles dans lesquelles se forment à la fois les moines et les futurs prêtres du diocèse. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui le directeur d'un grand séminaire. Et cet homme, anglais, homme de latin, il maîtrise complètement la langue latine, va aller sur le continent et au cours d'un voyage en Italie, il va rencontrer le roi des Francs à l'époque, le roi carolingien des Francs, c'est-à-dire Charlemagne. Et de cette rencontre, qui va sans doute avoir lieu en 781, va être nouée probablement une amitié entre les deux hommes, mais plus encore une coopération qui va donner lieu à une réforme profonde des systèmes d'enseignement et des systèmes culturels dans l'Empire des Francs.
C'est ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne.
Exactement. Alors pourquoi Renaissance carolingienne? Parce que depuis le 6e, 7e siècle, la culture latine, la maîtrise du latin, qui est à cette époque-là, la voie unique d'accès à la science, à la littérature, à l'histoire, le latin s'était non pas perdu, mais du moins que les centres culturels étaient devenus moins nombreux, les invasions barbares, les invasions germaniques, le déclin économique et commercial dans ce qui était à l'époque la Gaule, avait fait que on avait moins de moyens et moins de sécurité permettant aux monastères et aux lieux de culture de vivre et de faire vivre le latin et les ouvrages en latin. Et donc, même s'il n'y a pas eu de disparition des lieux d'enseignement, il y en avait beaucoup moins qu'avant. Et du coup, on remarque que dans un grand nombre de manuscrits du 6e et du 7e siècle, souvent les graphies sont peu lisibles ou alors les textes sont truffés d'erreurs de latin. Or, à partir du 8e siècle, à la fin du 8e siècle, la dynastie des Carolingiennes, Pépin le Bref, Charlemagne, vont prendre en main la population et leur empire et vont vouloir conduire les populations vers le salut. Or, à cette époque, on ne conduit pas la population vers le salut, ce sont des populations très religieuses, Charlemagne est un religieux. On ne conduit pas vers le salut sans passer par la liturgie, sans passer par les prières, sans passer par la messe. Or, tous les rituels se font en langue latine. Et donc, vous ne pouvez pas être garant du salut du peuple si vous n'êtes pas sûr de la maîtrise du latin. Et donc, l'exigence de culture part d'une exigence spirituelle. Et c'est à partir de cette exigence de culture, il faut que les prêtres maîtrisent le latin, il faut maîtriser les controverses. Pourquoi? Parce que face aux hérétiques, face aux sarrasins, aux musulmans, face aux byzantins qui sont orthodoxes, il faut pouvoir maîtriser le débat rationnel, le débat argumenté, et donc la théologie. Et pour ce faire, on a besoin de lettrés, on ne parle pas encore d'intellectuels, on a besoin de lettrés qui dominent le latin, qui dominent la dialectique, qui dominent la logique d'Aristote, etc. etc. Et donc, Charlemagne va soutenir Alcuin et va très certainement lui donner le rôle fondamental de mener à bien cette réforme.
les hommes d'église possédaient seuls ce savoir, la culture, la transmission du savoir dont vous parliez, passé par les abbayes?
Le savoir écrit, le savoir littéraire, est à 95% un savoir d'hommes d'église ou de moines. Parce que pour apprendre à lire, il faut beaucoup de temps. On apprend à lire par les psaumes. On apprend à lire aussi par l'étude. À l'époque, on n'apprend pas à lire et à écrire en même temps. Les deux sont dissociés. On apprend à lire, certains apprennent à écrire sans savoir lire. Et certains apprennent à faire les deux. Mais on a donc trois groupes très très différents. Pourquoi d'ailleurs apprendre à écrire sans comprendre ce qu'on lit ou ce qu'on recopie? Pour justement éviter les erreurs.
Ce sont des œuvres d'art.
En fait, vous dessinez des textes. Tous ces gens ont un principe spirituel qui les guide, mais ils sont des ecclésiastiques, mais on voit toutefois dans l'aristocratie des laïcs, alors évidemment souvent de très bonne naissance avec des moyens importants, collectionner les livres. On a par exemple pour certains hauts aristocrates carolingiens, ils ont des bibliothèques personnelles de 200 livres, 200 ouvrages. C'est gigantesque à l'époque, hein, 200 ouvrages, parce que chaque ouvrage coûte à peu près le prix de la moitié d'un troupeau. Donc il faut le support coûte très cher. Un ouvrage se rédige, s'écrit à peu près, il faut un an pour écrire, recopier entièrement un livre, donc ça coûte très très cher. Et on a même des femmes qui savent lire, écrire, commenter, notamment Duoda qui était une aristocrate franque de la fin du 8e siècle et du début du 9e, qui a rédigé un manuel d'enseignement pour son fils. Donc on a aussi des personnalités féminines qui sont capables d'avoir une vie intellectuelle.
Alors le but est d'assurer un enseignement à la fois sacré mais aussi à la fois profane. Qu'est-ce qu'on appelle les arts libéraux?
Alors l'enseignement profane, c'est très important à préciser, l'Église veut développer un enseignement autour de la Bible, autour de la théologie, mais elle voit l'enseignement biblique comme absolument indispensable, indissociable de l'enseignement des lettres latines. Or, les lettres latines ne sont pas mieux apprises et enseignées qu'à travers les sources antiques romaines qui sont toutes profanes, c'est-à-dire non chrétiennes. Donc l'Église accepte que l'ensemble de ses moines, ou une grande partie de ses moines et de ses clercs, passe par une éducation profane, Quintilien, Cicéron, Tacite, Virgile, etc., forment l'armature, le substrat culturel de la plupart des ecclésiastiques à cette époque-là. Autant, si ce n'est plus, que la Bible.
Alors, et les arts libéraux, donc?
Alors, les arts profanes, ces arts issus de l'Antiquité romaine, sont divisés en deux branches. Il y a le trivium et le quadrivium. Le trivium est une mise en ouverture. On apprend d'abord le trivium. Il y a la dialectique, la rhétorique et la grammaire. C'est-à-dire que le jeune, très certainement entre 10 et 13 ans, apprend par cœur les règles grammaticales du latin, apprend à argumenter, à rédiger une lettre, à rédiger, ou en tout cas à formuler une hypothèse, bref, à s'exprimer. Par le trivium, il devient un être de raison et un être de position intellectuelle. Il peut se présenter et dialoguer parce qu'il connaît le latin. Donc là, on est maximum autour de 12-13 ans. Après 12-13 ans, il bascule dans ce qu'on appelle le quadrivium. Donc il y a quatre grandes matières, notamment la géométrie, l'arithmétique, la musique, etc. Et on serait là dans une espèce de lycée. Hein, la langue, c'est le collège, si je puis dire, le trivium, et le lycée, c'est le quadrivium. Et dans ces matières, on apprend à chanter, on apprend à compter, on apprend encore à s'exprimer, on apprend aussi de l'astronomie. astronomie qui n'est pas l'astronomie d'aujourd'hui, qui est une astronomie qui est souvent astrologique. On apprend à voir dans le ciel les signes de Dieu. On apprend souvent à calculer une éclipse de lune. On apprend à compter l'année, compter les jours, etc. Et en fait, vous sentez peut-être que à travers l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique et la musique, en fait, l'objectif, c'est d'avoir parfaitement conscience que le monde et le cosmos est une architecture. Dieu est créateur d'une architecture, où les dieux sont créateurs d'architecture à l'époque romaine, et cette architecture a une logique. Le cosmos fonctionne selon des règles que l'on peut comprendre. Et c'est l'objectif. La musique, par exemple, les grands musiciens sont tous des mathématiciens au Moyen-Âge, parce qu'on pense qu'il y a une logique interne entre la musique et les mathématiques. Donc, vous voyez, on a un programme très complet. Alors, il manque des choses pour nous par rapport à nos lycées d'aujourd'hui. Ce qui manque, c'est l'histoire. Ils font peu d'histoire à notre manière. L'histoire qu'ils font, c'est l'histoire sainte. Donc, ils étudient les grands textes bibliques et ils font ce qu'on appelle de l'hagiographie. L'hagiographie, c'est l'histoire sainte vivante, c'est-à-dire l'histoire des saints de leurs époques. Donc, on va étudier l'histoire de Saint Martin, on va apprendre l'histoire de Saint Bernard, etc. etc. Donc, l'histoire, oui, mais forcément une histoire sainte biblique ou une histoire sainte actuelle. Et il leur manque de la géométrie, de la géographie, pardon. Très peu de géographie. La géographie en général, c'est la géographie biblique. C'est pour ça que les rares cartes qu'on a de cette époque, ce sont d'abord des cartes de géographie biblique.
Alors, on reviendra sur les limites de la Renaissance carolingienne, mais très concrètement, Alcuin et Charlemagne, que font-ils pour mettre en place toute cette Renaissance qu'ils ne qualifient pas forcément de renaissance.
Tout à fait. Ils font deux choses. D'abord, ils vont mettre en place une législation. Charlemagne, sur les conseils d'Alcuin, décide d'obliger tous les évêques, tous les diocèses, à créer une petite école dans leur diocèse. Et il fait la même chose avec toutes les abbayes qui lui appartiennent. Donc, dès lors que Charlemagne est maître des diocèses ou maître de telle ou telle abbaye, il peut se permettre d'imposer la création d'une école, puisque forcément l'argent vient de lui, l'argent vient de l'État. Il ne peut pas imposer des écoles, des ouvertures d'écoles, dans des lieux qu'il ne contrôle pas. Par exemple, une ville qui serait sous contrôle d'un grand prince, le duc d'Aquitaine par exemple, Charlemagne ne va rien imposer. Mais forcément, très petit à petit, la plupart des princes européens vont imiter ce système et eux-mêmes imposer des ouvertures d'écoles. Alors quand je dis ouverture d'école, en fait, de quoi s'agit-il? Dans les abbayes royales, on ouvre des places où, en fait, on va former qui? Eh bien, des moines, des jeunes clercs et parfois des jeunes laïcs. Mais les jeunes laïcs sont tous issus de la très haute aristocratie. On va les former à la lecture au latin, on va les former aussi parfois à un peu d'écriture, et on va donc les former au trivium et au quadrivium. Mais quel est l'objectif? L'objectif n'est pas que toute la société puisse s'exprimer librement en ayant accès à la culture, c'est pas ça l'objectif. Charlemagne veut que les prêtres, les futurs évêques et les futurs comtes, les laïcs, les aristocrates, soient capables de gouverner et de gouverner avec piété et justice. Or, la piété est enseignée par l'Église et la justice est enseignée justement par les arts libéraux. Donc, on veut créer des hommes qui soient des hommes complets, religieux et justes à la fois. Donc, vous voyez qu'il y a un projet de gouvernement derrière cette idée d'école. C'est pour ça que les écoles sont limitées à une catégorie très spécifique de gens. C'est pas ouverte à tout. Donc, première manière de faire cette réforme, une législation. Et deuxième manière, l'ouverture, la création de ce qu'on a appelé l'école palatine, ou parfois l'académie d'Aix-la-Chapelle, c'est-à-dire...
Qui
a été créée par Alcuin. Alcuin dirige à Aix-la-Chapelle, la capitale de l'Empire franc, une des rencontres, on pourrait dire des conférences, où les aristocrates francs de la famille proche de Charlemagne et les très grands clercs de l'Empire sont invités à venir, et où Alcuin dirige des débats publics, propose des cours de très haute tenue sur la théologie, sur la littérature, etc. Et il y a des jeux, on s'amuse à s'appeler par des noms héroïques. Par exemple, Alcuin parfois se fait appeler Homère, Charlemagne et Salomon, etc. Et on se donne ces noms de prestige biblique ou ancien, pour indiquer justement qu'on veut faire revivre ces anciens modèles.
Alors, il y a une des limites de la Renaissance carolingienne. Vous évoquiez la théologie, la littérature. On est plus dans ce monde, dans ces spécialités, que dans le monde de la philosophie.
Exactement. La Renaissance carolingienne, on pourrait presque dire que c'est d'abord une renaissance de culture et de langue, avant d'être une renaissance de théologie et de philosophie. La théologie qui renaît à cette époque est une théologie biblique, au sens où on redécouvre les textes, on les lit, on les étudie, mais on ne les décortique pas encore avec l'apparat critique qui sera celui du XIIe et du XIIIe siècle. Et la philosophie est une philosophie très embryonnaire, une philosophie qui est surtout basée sur le langage. Quel est le sens des mots ? Comment puis-je traduire tel ou tel mot ? Comment puis-je rendre telle ou telle réalité ? On est vraiment dans une philosophie minimaliste. On n'est pas dans une philosophie critique, on n'est pas encore au niveau de récupérer Aristote ou le platonisme de tous ces gens-là est une philosophie platonicienne très simple. Ces gens lisent Augustin, Saint Augustin, et c'est le cœur de leur spiritualité, de leur théologie, c'est Saint Augustin, et encore ils ne le comprennent pas tous. Et Aristote, ils n'en connaissent que des bribes, ils connaissent essentiellement à peu près la moitié des livres de la logique d'Aristote. Donc ils ne connaissent pas tout Aristote.
Alcuin disait qu'il voulait faire de la cour de Charlemagne, je cite, une Athènes plus belle que l'ancienne Athènes, car ennoblie par l'enseignement du Christ. C'est une tâche qu'il a accomplie ?
Oui, on peut le dire, puisque cette Renaissance carolingienne a toujours été, par la suite, une référence absolue. Lorsqu'il y a la Renaissance du XVIe siècle, lorsque les typographes et les imprimeurs du XVIe siècle commencent à mettre en place les caractères d'imprimerie, ils vont retourner aux manuscrits carolingiens, puisque la minuscule caroline, c'est-à-dire la graphie qui avait été utilisée pour copier les manuscrits, cette minuscule était tellement parfaite, tellement lisible, que les gens du XVIe siècle, les imprimeurs du XVIe siècle, ont cru qu'elle était le fait des gens de l'Antiquité. Et donc, ils l'ont utilisée pour faire les premiers caractères d'impression. Donc, les premières impressions des premiers textes sont en fait des copier-coller d'une minuscule qui date du 8e siècle, alors que les gens pensaient que c'était une minuscule qui datait du 1er siècle avant notre ère.
Et évidemment, cette minuscule est sortie d'une abbaye.
Elle est sortie d'une abbaye, exactement. Puisque n'oublions jamais que tout ce que nous savons aujourd'hui de la littérature latine, absolument tout, a été copié dans des monastères carolingiens. Nous n'aurions ni Cicéron, ni Tacite, ni Virgile, nous n'aurions rien si ces gens-là n'avaient pas copié tout, tout et tout.
Donc leur œuvre n'était peut-être pas de créer, mais plutôt de conserver et de transmettre.
Ils conservent, ils transmettent et ils importent de légères inflexions. Ces inflexions n'ont rien de commun avec les inflexions du XIIe et du XIIIe siècle, mais sans eux, il n'y aurait rien eu après.
Eh bien, merci beaucoup, merci. Olivier Anne. Je renvoie nos auditeurs également au portrait d'Erasme par Marie Barral Baron, qui est disponible donc sur Storia Voce. Et je vous promets, chers auditeurs, bien d'autres cours d'histoire afin d'illustrer vos propres cours, chers professeurs. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission de Storia Voce.